Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Vous écoutez SBS French. Nous sommes en studio avec Christophe Mallet et Anne Genetet. Madame la députée, bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Déjà, on va commencer par ça. Vous êtes avec nous en studio aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir de réaccueillir des invités en présentiel. Vous êtes aujourd'hui en Australie. C'est votre deuxième voyage depuis, si je puis dire, qu'on voit un peu la lumière au bout du tunnel, depuis que les restrictions ont été levées. Vous êtes venu une première fois en décembre. C'est votre premier voyage 2022. Avant qu'on vous pose la question de savoir pourquoi vous avez fait de voyages si rapprochés ici en Australie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça fait deux ans que le Covid frappe le monde entier. L'Australie n'a pas été épargnée, la France non plus, votre région non plus, vous allez nous en parler. Quelles sont vos premières impressions de venir ici en Australie?
Comme vous aujourd'hui, de réaccueillir quelqu'un, enfin pouvoir voyager, enfin pouvoir, ne serait-ce que pour moi, retourner chez moi, puisque j'avais pas eu d'autre choix que de rester à Paris depuis deux ans. Donc retourner chez moi, qui est ma base étant à Singapour, et puis reprendre contact avec les Français, c'est bien, on peut se réjouir d'avoir des écrans, c'est très utile, c'est très pratique, mais franchement, voir les gens en vrai, et pouvoir discuter de vive voix, en se regardant autour d'un café, ça change vraiment tout.
Et sur l'attitude post-Covid entre les Français et les Australiens, parce qu'on a beaucoup parlé de l'attitude pendant le Covid, hein, les Australiens c'était strict, ça a vraiment été très sévère ce qui s'est passé notamment à Melbourne, en France peut-être un petit peu moins. L'après-Covid, vous le voyez comment entre les deux pays?
Alors d'une manière générale, chaque État partout dans le monde a cherché à faire au mieux pour protéger sa population et son économie, vraiment tout le monde. Et puis chacun fait comme il pouvait, comme il le sentait, en fonction des conseils scientifiques qu'il recevait localement. Et vraiment, je juge que partout, il n'y a personne à critiquer, chacun essayait de faire au mieux qu'il pouvait. Tout le monde avait envie de protéger sa population. Et finalement, en sortie de Covid, c'est la même chose. On a tous envie de retrouver l'air libre. Là, j'ai une petite pensée pour nos Français qui sont en Chine, à Hong Kong, qui sont encore très enfermés, à Taïwan aussi, qui sont très enfermés de manière différente. Voilà, nous avons la chance, nous, en Australie, en France, de manière différente, de relâcher un peu les mesures assez rapidement. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que chacun, maintenant, on a tous appris en deux ans. On a tous compris que finalement, un masque, ça nous protège pas mal. Se laver les mains souvent, mettre du gel, garder ses distances, pas se précipiter à faire des hugs, à s'embrasser, à serrer la main, c'est quand même un geste de précaution. Et je suis sûre que s'il y avait une recrudescence à nouveau, très très vite, on retrouvera les bonnes habitudes pour s'en protéger.
Ouais, absolument.
Mais justement, encore un petit mot sur le Covid avant de passer à la suite. Vous le disiez, à Hong Kong, il y a encore beaucoup de restrictions. Ici, en Australie, plus beaucoup. En France, ça a été levé mi-mars. On a l'impression que, voilà, on est complètement passé à autre chose. Surtout, on va y revenir juste après avec la guerre en Ukraine qui a complètement balayé un peu l'actualité autour du Covid. Mais le Covid n'est pas terminé. Est-ce que vous pensez vraiment, là, on a une sémantique en disant voir la lumière au bout du tunnel, c'est la fin, etc. Sortie de crise, sortie de Covid. Vous pensez vraiment qu'on ne peut pas retourner vers de plus amples restrictions?
C'est possible, absolument. Il suffit qu'un autre variant apparaisse quelque part. N'oublions pas que la manière de se sortir de cette pandémie, c'est quand même la vaccination mondiale, pas seulement locale ou nationale. Donc tant qu'on n'aura pas notamment une large partie de l'Afrique, voire la totalité de l'Afrique, correctement vaccinée à plus, elle aussi, 80-90% de sa population, nous sommes toujours exposés à un risque d'apparition d'un nouveau variant. Donc oui, on n'est jamais à l'abri, et il ne faut pas dire jamais. Donc on fait attention. On peut avoir à nouveau des restrictions. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est que nous avons appris à gérer beaucoup mieux, à anticiper les restrictions et à accompagner les plus fragiles, les plus vulnérables. Moi, j'encourage par exemple tous ceux qui sont vulnérables, quelle que soit la raison, l'âge ou une maladie intercurrente, on garde un masque le plus souvent possible dès qu'il y a du monde. Mais j'ai vraiment la conviction, même à Paris ou en France où les mesures ont été relâchées, on s'aperçoit que dans la rue, on continue à avoir des gens masqués. Dans les magasins, on continue à avoir des gens masqués. Au cinéma, on continue à avoir des gens masqués. Donc on voit bien que finalement, beaucoup d'entre nous avons appris, nous savons quand nous devons nous protéger. Moi, j'ai été frappée parmi les jeunes. Quand ils font une fête maintenant, ils n'hésitent plus à se faire tester avant. Il y a encore un an, c'était inimaginable, ils faisaient la fête coûte que coûte, hein, peu importe que je sois positif ou non. Maintenant, les jeunes, j'en ai quelques-uns autour de moi, notamment familialement, il n'y a pas de problème avant d'aller en soirée, ils s'auto-testent. C'est un truc qui n'existait pas il y a un an. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, un apprentissage de la manière de faire, parce qu'on est certain, c'est que tous, à 100%, on n'a aucune envie de retourner en lockdown.
Ouais, absolument. Allez, on va parler de la relation entre la France et l'Australie, parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là également. Une relation qui a été un petit peu entachée quand même, si on prend les 12 derniers mois.
Secoué,
on va dire. Alors moi, je dis entaché, parce que je pense que ça a quand même été entaché. On va pas rentrer trop dans les détails, mais j'aimerais bien qu'on fasse un point aujourd'hui où on en est. Parce que c'est un peu, c'est pas forcément clair aujourd'hui où on en est de cette relation France-Australie. Qui joue quel rôle? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Et on pense quoi de cette relation? On pense quoi de l'Australie aujourd'hui à Paris?
Ça dépend sous quel angle on l'apprend. D'abord, c'est une relation qui, au départ, et le terreau, la base sur laquelle on s'appuie est très importante. Il y a une relation d'amitié solide entre la France et l'Australie qui est historique et ces dernières années qui se sentait, qui se palpait vraiment. Chacun ayant ses spécificités, ses particularités. Peut-être d'ailleurs que nous, côté français, nous considérions que cette relation était presque acquise. Donc ça fait partie des choses que nous devons peut-être reconsidérer.
Petit mea culpa, là.
Absolument.
Ouais. D'accord.
Ah oui, tout à fait. Moi, je le vois tout à fait comme ça. Voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là. Ensuite, chronologiquement, moi, je l'ai vu tout de suite après la rupture du contrat, beaucoup de messages inquiets qui me posaient simplement la question, mais pourquoi cette agression, ce coup de couteau dans la relation, dans l'amitié France-Australie ? Bon, le temps a passé. Ensuite, en décembre, lorsque je suis venue, c'était encore des questions, mais moins d'inquiétude, moins d'anxiété, parce que finalement, sur le terrain, sur la base, dans les communautés, les Français et les Australiens continuent à se parler, ils continuent à avoir des relations d'amitié, ils continuent à travailler ensemble, et ça, c'est une excellente chose. On a toujours des entreprises australiennes en France et des Françaises en Australie, et c'est une excellente chose. Et puis là, quand je reviens, on voit que justement, de ce point de vue-là, que ce soit sur l'angle culturel, sur l'angle entreprise, sous l'angle des écoles, il y a vraiment une envie de maintenant, allez, on avance, on va plus loin. Maintenant, il reste l'angle politique. Et là, en effet, au niveau politique...
C'est là où on se régale.
Voilà, au niveau gouvernemental des deux côtés, il y a clairement un froid qui persiste. Moi, j'avais pris l'initiative au lendemain, vraiment 3 jours après la rupture du contrat, de solliciter un rendez-vous avec l'ambassadrice d'Australie à Paris, Gillian Byrne, et qui m'a tout de suite accueillie, qui m'a confessé, me dire qu'elle faisait le plus sale boulot qui soit du moment. Et je l'ai revue régulièrement, les relations... politique à haut niveau reste froide, très très froide, mais je note que la ministre des Affaires étrangères australienne a été invitée au forum de l'Indo-Pacifique qui a eu lieu il y a quelques semaines, qui était organisé par la France à Paris. C'est un premier signal, mais il va falloir que chacun apprenne à se reparler politiquement, j'entends. Et voilà, il faut voir qu'au-delà de ce contrat, il y a d'autres contrats également qui ont été rompus par les Australiens. Donc voilà, il va falloir que les Australiens, malgré tout, nous expliquent comment ils envisagent de reprendre la relation au niveau stratégique, d'autant qu'ils sont demandeurs. Mmh. Ils sont demandeurs. Et là, ils me le disent, les Australiens, tout le temps, nous, on a une menace, on a une... avec la présence, la poussée, la percée chinoise. On a compris que le parapluie américain, auquel ils se réfèrent beaucoup, ben, l'exemple en Europe montre que, est-ce que les Américains seraient vraiment là pour nous ? Il y a un petit doute quand même. Mmh. Ils ont compris que l'Europe pouvait les aider. Donc je crois que les Australiens doivent pouvoir nous dire comment ils pourraient envisager de coopérer avec nous. Et puis nous devons également étudier ce qui s'est passé, voir, nous avons fait qu'il y a des erreurs. Les Français ont fait des erreurs. Il faut savoir les analyser et voir comment nous pourrions, nous, de notre côté, envisager une relation avec l'Australie. Je crois qu'il ne faut pas que les Français attendent tout de l'Australie, ni l'Australie tout des Européens et des Français.
Mais juste une petite précision là-dessus. Emmanuel Macron, le président, avait beaucoup parlé de l'axe Indo-Pacifique, oui. et c'était une des pierres angulaires de son voyage quand il était d'ailleurs venu ici.
En 2018.
En 2018, hein, j'y étais, vous y étiez, je crois. Mais, et aujourd'hui, on en est où de cet axe ? Parce que est-ce qu'il a été ébranlé à son pied avec...
Pas du tout. Alors ça, justement, c'est ça qui est très très important. Et pourquoi le président, justement, a organisé un forum de l'Indo-Pacifique en invitant la ministre des Affaires étrangères australienne. C'est justement parce que cet axe reste celui qu'il a décrit, l'axe Europe-Indonésie-Australie, Inde-Indonésie-Australie, et puis également, il y a ceux sur le Japon et d'autres pays de la zone. Oui, cet axe et cette stratégie reste pleine et entière. Elle est extrêmement importante. Alors, là où il a une vision, il a été le premier, c'est qu'il faut emmener l'Europe. Parce que tout seul, nous, Français, ça ne suffira pas. Mmh. Pour le moment, qui sont les pays qui se sont emparés du sujet ? On a le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Commission européenne qui a présenté sa stratégie. Mais enfin, je vous ai cité 4 avec la France sur 27. Mmh. Donc c'est vrai qu'il en reste 23 à emmener avec nous.
Mais si on parle très concrètement, la relation est secouée, entachée, ça, peu importe la sémantique, la relation est froide en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place concrètement ? Qu'attend le gouvernement français de la part de l'Australie ? Est-ce que c'est juste des discussions ? Est-ce que c'est juste d'être rassuré sur le fait que l'Australie va respecter les futurs contrats, comme vous le disiez à l'instant ? Ou est-ce que la France attend des décisions, des actes concrets de la part de l'Australie ?
Il faut que l'Australie nous explique comment elle envisage sa stratégie Indo-Pacifique avec nous. Et pour le moment, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. On n'a rien de posé sur la table qui nous permette de voir clair sur comment ils envisagent. Ils sont demandeurs, mais une fois qu'ils l'ont dit, on ne sait pas comment. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'ils nous expliquent, comment ils souhaitent faire. Nous avons, nous, une présence humaine, militaire, territoriale. Ils le savent maintenant. Je crois qu'ils le voient encore plus maintenant. D'ailleurs, ils ont été très inquiets avec le référendum sur la Nouvelle-Calédonie. Ils l'ont exprimé quand, en décembre, j'ai rencontré des homologues australiens. Les questions tournaient beaucoup à ce moment-là autour du référendum en Australie. Donc, ils ont compris que nous étions une puissance de l'Indo-Pacifique. Maintenant, comment est-ce qu'on coopère, comment est-ce qu'on construit un partenariat stratégique en termes de, on est sur de la défense, on est sur des enjeux climatique, lutte contre le changement climatique, de défense culturelle, de des valeurs que, profondes que nous portons et en Australie et en France. Qu'est-ce qu'ils nous mettent sur la table ? Pour le moment, c'est pas clair.
D'accord.
Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Est-ce que vous sentez que...
C'est un peu tôt pour le dire. C'est encore un peu tôt pour le dire. Et je pense très honnêtement qu'il va falloir laisser passer les élections. Nous avons et les Australiens et les Français des élections. Laissons passer ça. On reprendra notre souffle juste après, j'en suis certaine.
Ouais, on va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission. Avant de passer à une pause d'une trentaine de secondes, on va parler de la fiscalité et de ce qui touche vraiment les Français qui sont aujourd'hui en Australie. Vous avez été vraiment un fer de lance pour essayer de défendre la couverture sociale, par exemple. La relation avec Medicare et la sécurité sociale. Moi, honnêtement, je suis français installé depuis un petit moment ici. C'est assez compliqué. Et je ne vois pas vraiment comment ça peut évoluer. Mais vous, vous avez des projets là-dessus.
Alors, oui, on a un organisme qui s'appelle le CLES en France qui s'occupe des conventions, des discussions, des négociations de ces types de conventions de protection sociale. Clairement, pour le moment, les Australiens ne nous ont pas proposé une réciprocité parce que la règle de base de la France, c'est que lorsque nous convenons que nous signons un traité, que ce soit d'ailleurs un accord commercial, de recherche, peu importe, ou de sécurité sociale, nous attendons la réciprocité. Ça, c'est la base des traités que la France signe. Sur la protection sociale, il n'y avait pas de réciprocité avec l'Australie. Donc c'est ça qu'il va falloir travailler. Et là, j'ai découvert, par exemple, en rencontrant des Français ces jours-ci, qu'il y avait dans la convention fiscale, cette fois-ci, entre l'Australie et la France, la possibilité pour un Français basé en Australie de cotiser à la retraite française pour garder un lien au cas où il aurait une opportunité de retourner travailler en France.
Ça vaut très cher par contre.
Alors, il y a des moyens de baisser le tarif, mais surtout, il y a le moyen que cette cotisation soit prise en compte dans la taxation en Australie. C'est prévu dans la convention entre les deux pays, sauf qu'il y a un blanc. On ne sait pas comment l'Australie le met en œuvre. Apparemment, la question ne s'est jamais posée. C'est dommage. C'est un sujet qui m'a été présenté hier, que je trouve très intéressant, parce qu'on voit beaucoup de jeunes qui arrivent en Australie. Mm-hmm. Mais moi, je voudrais qu'il y ait une vraie réciprocité dans la mobilité. C'est-à-dire qu'on puisse venir en France, en Australie quelques années, repartir en France, et puis revenir. Voilà, qu'il y ait cette possibilité d'aller de l'un à l'autre. Ça passe par des protection sociale qui soit assurée des deux côtés, une fluidité, une continuité de la protection sociale et une continuité, une équité sur le plan fiscal. On n'y est pas encore ni pour l'un ni pour l'autre. Donc il y a des choses à faire encore sur la relation.
Mais on peut comprendre que les jeunes Français ou les moins jeunes Français soient frustrés ici parce qu'on sait que il y a d'autres pays européens qui ont des réciprocités avec...
Ils se sont couchés.
Ouais, bah,
ils n'ont pas eu la réciprocité, la bien sûr.
Mais les Britanniques, par exemple, qui étaient à l'époque...
Je ne connais pas les Belges et les Italiens. Les Belges et les Italiens se sont couchés. Ils ont accepté de ne pas avoir la réciprocité.
D'accord.
Alors que au sein de l'espace européen, la protection sociale est la même. Que vous soyez en Belgique, en France, en Italie, c'est le même système, c'est le même principe. Et les deux, Belges et Italiens notamment, ont accepté la non-réciprocité. Donc et la France ne l'accepte pas.
La France, faire de lance alors.
Voilà, je crois que c'est important. Quand on prend l'exemple du traité commercial entre l'Union européenne et l'Australie, la base de ce traité, c'est la réciprocité. C'est-à-dire qu'on laisse rentrer des marchandises en Europe qui viennent d'Australie, mais sur une base de critères, par exemple, environnementaux ou de règles non tarifaires qui sont les mêmes pour les produits français ou européens qui vont rentrer en Australie. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre les deux. Mmh. C'est la base.
Absolument. Allez, on fait une courte pause et puis on se retrouve tout de suite après ça. On va parler de votre zone. Et là, vous avez du pain sur la planche. Hein.
On va beaucoup.
Courte pause, on revient dans quelques instants.
Choisissez sbs.com.au/french comme page d'accueil de votre navigateur Internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au/french.
h 39 sur SBS French. Nous sommes avec Anne Genoté, députée des Français de l'étranger pour la 11e circonscription. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va maintenant parler de votre zone, une zone très large. Vous avez la moitié de la planète.
À peu près.
À peu près. Donc dans votre zone, il y a l'Australie, bien sûr, vous êtes avec nous aujourd'hui. Mais il y a aussi la Russie et l'Ukraine, mais pas que. Vous avez aussi la Birmanie, la Biélorussie et tant d'autres pays. Décrivez-nous la situation des Français actuellement dans votre zone. C'est une question un petit peu large. On va préciser un peu après dans nos questions. Comment vont les Français dans votre zone ?
Dans ces deux pays-là que vous avez cités, la Russie et l'Ukraine, c'est compliqué, je peux en parler. Ailleurs, dans l'ensemble de la zone, des profils très différents en fonction notamment du Covid. Hein, la Chine et Hong Kong, j'en ai dit un petit mot tout à l'heure, très compliqué. Taïwan également, la Birmanie, on n'a plus personne. Et puis des pays qui ont vécu l'enfermement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour, et qui n'ont qu'une envie de bouger. Alors on a un mouvement d'ailleurs démographique, on a une baisse. Moi j'ai une baisse de la démographie française, qui est de l'ordre de 13% sur l'ensemble de la Chine, par exemple, c'est considérable. 8% sur Singapour, c'est énorme. Il n'y a qu'en Australie qu'on a progressé. Donc j'en suis ravie, ce qui montre que la relation France-Australie n'est finalement pas si mauvaise que ça et que l'Australie attire toujours, j'en suis absolument ravie. Et puis maintenant, si je passe du côté de la Russie et de l'Ukraine, alors là, et de la Biélorussie, c'est un effondrement. Nous avions 200 Français en Biélorussie, il n'y en a plus. Nous avions 1000 Français en Ukraine, un petit peu plus avec ceux de passage. Nous avons actuellement à peu près 80 Français qui restent, qui sont des profils qu'on pourrait comparer un peu à l'Australie, des gens très implantés localement, un conjoint ukrainien, donc des enfants binationaux, des beaux-parents, des cousins, des très implantés localement, donc du coup ils n'ont pas forcément envie de partir. En Russie, un peu moins de 5000 Français, là, un profil encore un peu différent, et beaucoup sont en train de considérer un départ du pays.
Et vous, avez-vous demandé à ces Français de quitter l'Ukraine ou de quitter la Russie ?
Alors, ce n'est pas à moi de leur dire.
Vous, le gouvernement français.
Voilà. Alors, donc, nous avons en France un outil qui est assez exceptionnel, qui s'appelle le Centre de crise et de soutien, qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui s'occupe, par exemple, vous avez une crise humanitaire quelque part, c'est le centre qui va envoyer un convoi humanitaire pour aller apporter une aide humanitaire. Et c'est-à-dire, ce qu'ils font en ce moment, c'est eux qui convoient l'aide humanitaire vers l'Ukraine, la Pologne et l'Ukraine. Et donc, ce centre de crise, c'est lui qui a donné instruction sur, en prenant les informations qui remontaient de nos ambassades à chaque fois et qui a essayé d'évaluer la situation et qui a dit à chaque moment, là vous ne bougez pas, là vous sortez. Voilà. Donc c'est ça qui a été dit par nos postes et qui a conduit nos Français à sortir parfois dans des conditions assez rocambolesques. S'agissant de la Russie, il n'y a pas de menace sur leur sécurité. Pas du tout. Mais des difficultés à vivre, dans la mesure où ils n'ont pas moyen d'utiliser, de faire venir l'argent qu'ils gagnent, parce qu'il y a des profil un peu particulier. Quand on est en Russie, souvent on a une partie de nos revenus en France, en euros, une partie en roubles en Russie. Donc il fallait pouvoir faire venir les fonds ou les faire sortir. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Il y a également un pays qui n'est pratiquement plus en connexion avec l'Europe, sauf à passer par Istanbul, par Erevan ou par Dubaï. Ça devient beaucoup plus compliqué, très cher. Donc il y a un certain nombre de Français qui ont finalement pris la décision de quitter la Russie.
Justement, ces Français qui vivent en Russie, on va en reparler dans un instant parce qu'on voudrait évoquer avec vous le fait que l'Union européenne et notamment la France, qui met des sanctions contre la Russie, impactent en fait notamment les Français qui vivent là-bas. On va y revenir dans un tout petit instant, mais je voudrais revenir sur ces Français en Ukraine, notamment ceux qui ont essayé de fuir. Comment s'est passée l'évacuation de ces Français ? On a entendu à la radio, dans les chaînes de télévision, des témoignages de Français qui s'en prenaient directement à Jean-Yves Le Drian ou à Emmanuel Macron, disant que l'évacuation s'était pas si bien passée. Derrière, on avait le son de cloche du gouvernement qui disait que c'était faux, que ces personnes avaient été récupérées par des convois humanitaires, qu'elles avaient été aidées, que si ça s'était mal passé, c'est que parfois, en fait, elles ne voulaient pas partir ou pas partir tout de suite. Concrètement, comment s'est passée l'évacuation des Français d'Ukraine ?
Alors, en effet, il y a une différence de perception, tout à fait. Ce dont je peux témoigner, c'est que le gouvernement a tout mis en œuvre pour essayer d'organiser une sortie, notamment de ceux qui étaient sous les bombes, parfois dans des conditions rocambolesques. Nous ne pouvions pas, nous, envoyer des forces spéciales, je sais pas quoi, un GIGN, l'armée française, c'est inimaginable, ça n'est pas possible. Concrètement, ça n'est pas possible. Donc, il s'agissait de trouver sur place des minibus, des chauffeurs, parce que parfois les chauffeurs étaient réquisitionnés, ou les bus étaient réquisitionnés au dernier moment. Donc, une logistique extrêmement complexe. Donc, en tout cas, les meilleurs efforts ont été déployés. Mais de l'autre côté, d'abord, ces meilleurs efforts ne pouvaient pas forcément répondre à toutes les situations. Il pouvait y avoir des gens dans des endroits extrêmement retirés, sous les bombes, dans des conditions de sécurité qui ne permettaient pas de leur envoyer une aide. D'autre part, de l'autre côté, des Français qui étaient sous les bombes. Et quand vous êtes sous les bombes, enfin moi ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu leurs témoignages, on ne peut être que dans un état de stress absolument inimaginable, je crois que même aucun d'entre nous ne peut l'imaginer. Et donc tout ce dont ils avaient envie, ils auraient aimé qu'une baguette magique, un hélicoptère leur tombe du ciel, vienne les élitreuiller pour les sortir de cet enfer. Donc dans ces conditions-là, quoi que vous fassiez, ça n'est jamais adapté. Donc évidemment qu'il y avait des gens qui se sont sentis abandonnés, il faut l'entendre, cette réaction me semble normale. Et de l'autre côté, je peux témoigner du fait que les meilleurs efforts étaient déployés. Donc ensuite, on a réussi petit à petit finalement à sortir presque tout le monde. Et les 80 qui restent, c'est un choix qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils changeront d'avis d'ailleurs. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Chacun a ses contraintes. En ce moment, ils disent toujours non. Puis il y a peut-être un moment finalement, ils vont dire oui. Et puis il y en a peut-être qui sont sortis. Puis qui disent non, ça suffit maintenant, je suis trop loin. Et tant pis, je vais rentrer quand même. Alors qu'on va leur dire surtout, rentrez pas. Il faut l'entendre, c'est normal, on est dans de l'humain.
La migration de l'ambassade de France de Kiev à Lviv, c'était un moment important, hein, dans la relation diplomatique et dans l'action de la France. C'est important de garder un pied en Ukraine, ne pas faire partir l'ambassadeur totalement. Et quel est le rôle maintenant d'une ambassade, entre guillemets, temporaire à Lviv, plutôt que dans la capitale, qui tient pour l'instant à Kiev?
Alors, c'est fondamental. D'ailleurs, ça me permet de rendre hommage à notre ambassadeur, Étienne de Poncin, qui fait un boulot absolument incroyable, que j'avais rencontré à plusieurs reprises. Alors, c'est très important. On est l'un des, je crois qu'on est le dernier pays du G7 présent en Ukraine. Et aujourd'hui, que fait-il? D'abord, c'est lui qui aide les convois humanitaires à rentrer sur le territoire ukrainien, donc à obtenir les autorisations pour qu'ils puissent rentrer, les itinéraires en lien avec les autorités ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes, vaut mieux être à côté d'eux que de l'autre côté de la frontière. C'est quand même beaucoup plus facile. Ensuite, il entretient les relations politiques qu'on lui demande de faire. Il rencontre très régulièrement des ministres, des vice-ministres. C'est lui qui établit le lien avec différents ministères qui fonctionnent toujours. Le gouvernement ukrainien n'est pas tombé. Il est toujours là et il travaille. Donc il fait ce travail politique qu'on lui demande de faire, de relations bilatérales, également dans le cadre du multilatéralisme avec d'autres pays européens, et puis l'aide à convoyer des convois humanitaires. Et puis parfois, il y a toujours de l'aide avec des Français. Je vais donner un exemple. On a une situation, vous en avez peut-être entendu parler, l'Ukraine était un pays où certains parents allaient pour avoir des enfants par GPA. Et on a des enfants qui vont naître par GPA entre le début de la guerre, 24 février, et vous comptez à peu près 7-8 mois plus tard. Donc on a des tas d'enfants qui vont naître et dont les parents voudraient venir chercher les enfants en question. Donc notre ambassadeur est là pour faire le lien entre ses parents d'intention, la mère qui va les mettre au monde, les enfants, comment on les récupère, comment on les emmène à la frontière, comment on fait les papiers, etc. Donc il a aussi ce travail-là à faire. C'est à peu près 2 naissances par semaine.
D'accord. Si on reparle, et Marianne l'a évoqué un petit peu plus tôt, les Français à Moscou, donc de l'autre côté, le chiffre, vous nous l'avez donné. Qu'est-ce qu'on sait de leur vie aujourd'hui à Moscou? Parce qu'on peut dire que c'est aussi des dommages collatéraux, ces Français, qui sont pris dans des sanctions économiques qui sont quand même mises en place par leur pays. Quelles sont les réactions de ces Français sur place, et est-ce que la France peut, se doit ou ne doit pas faire quelque chose pour ces Français là-bas directement?
Alors l'ambiance est morose parce que là aussi ce sont des Français très implantés, qui ont un travail, qui ont une famille, une belle famille éventuellement russe, et oui, j'ai été en contact avec des Français qui sont très amers des sanctions qui sont posées. C'est un vaste débat, les sanctions. Est-ce que c'est efficace ou pas? Alors, en tout cas, on peut témoigner du fait que ça a un impact direct sur l'économie russe, donc sur nos Français, qui sont très malmenés là-bas. À long terme, est-ce que ça aura un impact? Est-ce que l'objectif de faire que la guerre coûte cher à Vladimir Poutine et le fasse revoir ses ambitions à la baisse, c'est pas gagné. Mais en tout cas, c'est une discussion importante. Après, on a une partie des Français qui ont considéré que c'était quand même important, qui ne sont pas d'accord avec cette guerre, qui sont d'ailleurs en contact avec des Russes. Moi, vous savez, au moment où la guerre a éclaté, les témoignages que j'ai reçus étaient extrêmement poignants de Français qui travaillaient avec un environnement russe, des collègues de bureau qui étaient russes. Et ils ont eu des collègues qui sont arrivés le 24 au matin en pleurant, en disant « mais comment on peut me souhaiter une bonne journée? C'est pas possible ce qui se passe aujourd'hui. » Ça a été vraiment la réaction à chaud, immédiate. Alors après, ils se sont corrigés parce qu'il y a comme une censure et un contrôle de la parole et de la propagande qui est très fort. Mais donc, ils étaient entourés dans un environnement russe qui était tout à fait opposé à ce qui se passait.
Et là, je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit. Les sanctions économiques, clairement, est-ce qu'on a... je sais ce que vous allez me répondre, mais ma question, je vais quand même la poser. Est-ce qu'on pense que vraiment ça peut fonctionner? Quand on connaît l'attitude des Russes et l'attitude par rapport à leurs médias, aujourd'hui, un Russe lambda, il ne voit pas la même information que moi, je peux voir, que vous pouvez voir. Donc, il n'a pas cette même vision de la guerre. Est-ce qu'on pense réellement à Bruxelles, à Paris, qu'en serrant la vis plus et plus et plus et plus pour les gens lambda en Russie, il va y avoir une révolte? Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ces sanctions économiques?
Alors, clairement, l'objectif, c'est que la guerre coûte extrêmement cher à Vladimir Poutine. On sait qu'aujourd'hui, son armée est malmenée, ses soldats sont mal formés, sont mal équipés, et l'armée russe n'est pas finalement à la hauteur des performances qu'on pouvait en attendre. C'est clair, donc c'est vraiment un objectif court terme qu'on vise. Maintenant, quand on prend un peu l'histoire des sanctions posées sur certains pays, pour la Corée du Nord, on prend l'Iran, on prend d'ailleurs la Russie en 2014, on peut s'interroger.
Le Venezuela. Le Venezuela, voilà. C'est un super exemple.
Exactement. On voit bien que les sanctions économiques ont été placées, que c'est vrai qu'au bout du compte, c'est plus la population qui a souffert que le régime en place, qui n'est pas forcément tombé. C'est un débat compliqué, mais aujourd'hui, compte tenu de l'agressivité que déployait Vladimir Poutine, moi je suis plutôt en faveur de sanctions, même de sanctions beaucoup plus fortes. Moi j'irais même encore plus loin. On voit déjà frémir l'environnement proche de Vladimir Poutine, même si on a assez peu d'informations. On peut se poser la question de savoir si autour de lui, ses plus proches conseillers vont continuer à le suivre dans une situation dont il faut observer que Vladimir Poutine a de toute façon perdu la face. A perdu la face. Je ne sais pas comment il peut s'en sortir. Comment peut-on le faire sortir par le haut ? Les Européens et les Alliés doivent se poser la question.
Il y a une vraie réalité, parce que c'est un débat qu'on peut avoir. J'aurais aimé qu'on ait deux heures pour en parler, mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine, quand vous dites qu'il a perdu la face, il a aussi perdu la face en Ukraine. Cette guerre, il l'a même perdue, parce que même s'il prend tout le terrain, s'il prend 100% du terrain, politiquement, il ne pourra pas installer un gouvernement
pro-russe. Et là, on voit bien que Vladimir Poutine s'est trompé dans sa compréhension du terrain. D'ailleurs, on peut se poser la question de savoir comment il exerce son pouvoir. On voit bien, à travers le Covid, qu'il était très seul, qu'il est dans une bulle, qu'il mettait même ses plus proches conseillers physiquement à distance, on en a vu des images, il a largement communiqué dessus et il ne connaissait pas l'Ukraine. Moi, quand je suis allée en Ukraine en juillet dernier, j'étais à Kiev, à Kherson, à Odessa et sur la ligne de démarcation avec la Crimée. Je peux vous dire que ce qui m'a frappé là-bas en Ukraine, c'est que 100% des Ukrainiens que j'ai rencontrés, y compris ceux qui étaient sortis de Crimée pour venir me rencontrer, m'ont tous dit combien ils avaient développé une fierté d'être ukrainien, une culture ukrainienne, un sentiment d'appartenance à une vraie nation qui existait. La nation ukrainienne, elle était évidente. Mmh. Et c'est ça que Vladimir Poutine n'a pas compris. Il n'a pas du tout été accueilli avec facilité comme il l'avait été en Crimée en 2014.
La dernière fois, on faisait une interview avec une journaliste justement qui était basée à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne et elle nous expliquait que malgré tous les réfugiés, toutes les personnes qui fuyaient l'Ukraine puisqu'ils fuyaient la guerre, donc ils essayaient de sauver leur vie, la plupart d'entre eux avaient juste une vision à court terme puisque leur objectif c'était de rentrer chez eux, exactement ce que vous venez de dire. Ils sont ukrainiens, ils veulent rentrer chez eux, ils attendent juste d'être un petit peu plus en sécurité, mais même si la guerre continue, ils seraient prêts à rentrer quand même. Ils n'attendent pas la fin de la guerre, ils attendent juste éventuellement la fin des bombardements dans leur ville, puisque maintenant on a tous bien compris que les civils étaient touchés. Le haut commissaire à l'ONU évoque 10 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine. Juste en Pologne, on en parlait tout à l'heure dans le journal, c'est 3 700 000 personnes. La France, évidemment, accueille également des réfugiés venant d'Ukraine. Qu'est-ce qui est mis en place pour ces personnes ?
Alors en France, on a mis... Alors, en effet, c'est 10 millions, un objectif probable possible de 10 millions de réfugiés en Europe ou ailleurs dans le monde. Et les réfugiés pour le moment ukrainiens, d'abord, ont envie de rester tout près de l'Ukraine. Hein. Très peu envie d'aller plus loin que la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, parce qu'ils ont vraiment d'abord envie de rentrer chez eux. Après, pour ceux qui vont un peu plus loin, ils vont d'abord aller là où ils ont de la famille ou des amis ou des proches. Et là, ça va dépendre des communautés. Grosse communauté en Espagne, 100 000 Ukrainiens. Avant la crise, avant la guerre. 240 000 à peu près en Italie, 60 000 à Toronto. En France, on était sur 15 000. Donc on en avait moins, c'est pour ça qu'on on a un afflux moindre pour le moment. Entre le désir de rester proche de chez eux et la taille de la communauté d'origine, on en a moins. La plateforme qui a été mise en place, c'est une plateforme qui leur permet d'abord, là aussi, une décision européenne, un titre de séjour européen. C'est-à-dire, quel que soit le pays où ils vont aller, que ce soit les Pays-Bas, l'Espagne, la France, ils auront le même droit au séjour, avec la même protection sociale, le même droit au travail, la même gratuité dans les transports. Donc tout ça a été harmonisé au niveau européen. C'est bien une chose que M. Poutine a perdu, c'est qu'il espérait nous diviser, il n'a fait que nous unir. Donc ça, c'est une excellente chose. Donc voilà. Et là, donc cette plateforme, et en France, on a déjà identifié, la première urgence, c'est l'hébergement. On a déjà identifié pour eux 100 000 places d'hébergement, et je crois qu'on est à 25 000 réfugiés en France. Je suis très fière de ce qu'ont fait les Français, de ce qu'ils ont proposé. D'un seul coup, le mot réfugié, il a changé de sens en France. Mmh.
Mais alors justement, vous nous offrez une transition toute trouvée pour notre troisième bloc. On change de président dans quelques semaines en France. Selon la personne qui va gagner l'élection présidentielle, quel sort va être réservé à ces réfugiés ?
Moi, je peux parler que de ce que je connais. Donc, je peux parler de ce que propose le président candidat Emmanuel Macron, qui, lui, va continuer sur cette perspective d'accueillir les réfugiés ukrainiens qui en auront besoin. C'est encore 2500 enfants ukrainiens dans nos écoles qui vont apprendre le français, qui vont se frotter à notre modèle d'éducation à la française. Il y en aura certainement beaucoup plus. Donc, on continuera à les accueillir et à les accompagner dans leurs projets, que ce soit peut-être certains resteront. Moi, j'y crois pas. Je crois que l'essentiel voudra au plus vite possible repartir, d'autant que ces réfugiés sont essentiellement des femmes et des enfants et des personnes âgées. Ils ont laissé père et mari ou fils en Ukraine et n'ont qu'une hâte, c'est pouvoir le retrouver.
Oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes pour parler justement de l'élection qui arrive, les élections, parce qu'il y a deux élections qui tapent à la porte. Premièrement, le candidat Emmanuel Macron. On a joué une phrase, on en a parlé dans le journal, c'est on dit beaucoup à Paris, on est président quand il est président quand il le faut et il est candidat quand il le peut. C'est ce qui se dit aujourd'hui à Paris. C'est une campagne qui est compliquée. Il caracole en tête. Est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur, ça, de penser que ça peut être acquis, en tout cas pour le public français, et qu'au total, les gens vont pas aller voter?
Non. Je crois que même si dans son rôle de président, il a démontré sa capacité, qui d'ailleurs est saluée par l'ensemble des partenaires européens, aussi dans son rôle de présidence française du Conseil de l'Union européenne, il a montré sa capacité à parler aux grands dirigeants, que ce soit Poutine, pour commencer, il faut en avoir du cran pour lui parler à Poutine. Il faut en avoir du courage. Donc ça, il l'a démontré, c'est clair. Sa capacité à parler à l'ensemble des partenaires alliés européens, que ce soit aussi avec les Américains, au sein de l'OTAN. Donc on le voit, on le sait. Et ça, on a absolument besoin de ça. On a besoin qu'il continue. C'est pas un truc qui s'interrompt. Il va pas dire, Monsieur Poutine, vous permettez, je reviens dans 2 mois parce que là, il y a campagne électorale en France. Donc ça, il faut absolument qu'il soit présent. Mais pour autant, il y a une campagne électorale. Et c'est pour moi, même si certains disent, elle s'exprime différemment, mais ça reste une campagne électorale. Et ça reste un combat et un débat d'idées jusqu'au bout. Moi, j'ai entendu des candidats qui essayent de présenter des idées. Le président candidat Emmanuel Macron a présenté également son projet. Il faut maintenant pouvoir déployer ses projets et se dire qu'une campagne, elle ne se termine qu'au moment où le dernier bulletin est mis dans l'urne. Et donc, tant que le dernier bulletin n'a pas été dépouillé, on ne peut pas considérer en aucun cas, quel que soit le scrutin, qu'un scrutin est acquis. Et caracolé en tête, oui, il a une avance. Mais moi, je reste prudent. D'abord, je ne suis pas sûre, à la lumière de tout ce qui s'est fait avec les sondages dans les élections passées, moi, je regarde, je veux bien garder des tendances, ceux qui montent, ceux qui descendent. Mais la valeur absolue de chacun des résultats, je reste extrêmement prudent. Pour le moment, posons-nous la question de savoir quel est le projet qui me correspond, à quoi j'ai envie que ma France ressemble dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et aller vers le candidat qui porte le projet auquel je crois.
Alors, on a juste une petite minute pour finir, mais je vais vous poser la question, est-ce qu'il aurait dû débattre au premier tour, Emmanuel Macron, s'il voulait remettre la campagne, comme vous le dites, sur le devant des Français?
Il n'y a jamais eu de débat d'avant premier tour. Ça, c'est un buzz de médias. Parce que ça fait une audience pas possible sur les chaînes de télé. Mais moi, pour avoir fait des débats déjà seul contre 4, on n'a pas le temps de déployer ses idées. Alors lui, seul contre 12, c'est pas possible. Ou contre 11, c'est pas possible. Donc ça n'est pas raisonnable. En revanche, ce qui a été fait, qui a été très intéressant et très bien suivi, c'est les débats thématiques. Quand d'un seul coup, il y a eu un débat où il y avait l'ensemble des candidats qui venaient parler uniquement santé, qui étaient devant ou devant les forces de police, qui venaient les interroger chacun, où chacun pouvait déployer son programme sans qu'il y ait d'invectives ou de petits mots, de petites phrases assassines. On était sur le fond. Moi, j'ai vu des choses très intéressantes sur le logement, sur la santé, sur la sécurité, où chaque candidat venait déployer. Du coup, on avait le temps de se consacrer, d'écouter ce qu'il disait et de voir ce qu'il proposait. Ça, franchement, j'ai trouvé ça des formats beaucoup plus intéressant.
D'accord, en tout cas, vous avez du pain sur la planche sur les prochains mois.
Ah bah oui, absolument, et je suis ravie de le faire et ravie. Je sais ce à quoi je crois et ce à quoi j'ai envie que mon pays ressemble pour mes enfants, pour mes petits-enfants.
D'accord, on arrive à la fin de notre émission. Merci en tout cas d'avoir passé ces quarantaines de minutes avec nous. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Je sais que vous portez SBS dans votre cœur.
Absolument, c'est un modèle dont on aurait vraiment besoin actuellement en France, où justement on accueille tous ces milliers de réfugiés ukrainiens qui ne parlent pas un mot de français, et puis également des ressortissants russes en moindre nombre, mais quelques-uns. Oui, plus que jamais, il faudrait une radio qui leur parle.
On en parle.
Absolument.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.